France Culture, les matins d'été, Olivia Gesbert.
Au lendemain de l'attentat commis hier à Saint-Étienne-du-Rouvray, faire face à la violence, on en parle avec nos invités. Oui, ça semble facile à dire, mais comment faire face à la violence, faire face à nos peurs. Avec nous, Marc Crépon, philosophe, co-auteur de La philosophie face à la violence aux Équateurs et auteur de La culture de la peur, un ouvrage paru en 2008 chez Galilée. En duplex de France Bleu, Creuse, le père Delorme, engagé dans le dialogue interreligieux depuis longtemps, et par téléphone, Rachid Benzine, son complice, islamologue, chercheur associé à l'Observatoire du religieux, rattaché à l'IEP d'Aix-en-Provence. Christian Delorme et Rachid Benzine, vous avez écrit ensemble « Nous avons tant de choses à nous dire » chez Albin Michel. C'est un ouvrage qui est paru en 98 et près de 20 ans plus tard, vous avez donc choisi de rouvrir ce dialogue avec la République, l'Église et l'Islam, une révolution française, un ouvrage paru le 9 mars dernier chez Bayard. Un dialogue qui semble quand même largement mis en échec une fois encore ce matin par le drame d'hier à Saint-Étienne-du-Rouvray, père Delorme. Comment le rouvrir, ce dialogue? Ou pourquoi faut-il absolument le perpétuer?
Oui, je pense que c'est plutôt cela, parce qu'il n'est pas interrompu, et encore une fois...
Non, mais il semble à la peine, quand même. Hein.
Alors, il est à la peine, c'est-à-dire que ce qu'on observe, c'est qu'il y a des replis de partout, et beaucoup de chrétiens qui... il y a quelques années, était davantage ouvert à la rencontre des musulmans, au dialogue. Aujourd'hui, se replie en peur, et sans doute de la part de certains musulmans aussi. Donc ce qui est très important, c'est qu'on ne renonce pas justement à ces rencontres et qu'on les multiplie. Moi, cette année, j'ai pu observer que pendant le mois de Ramadan, en tout cas en région lyonnaise, beaucoup de mosquées se sont ouvertes et ont invité des chrétiens et d'autres. Sans doute parce qu'ils se rendent compte que si on s'isole, si on se referme, eh bien, on risque de tomber dans le piège des affrontements et des divisions.
Attendu à Cracovie pour les JMJ, le pape François a fustigé hier un meurtre barbare et condamné de la manière la plus radicale toute forme de haine. Il doit s'exprimer encore aujourd'hui et cette parole est forcément très attendue dans un tel contexte. Comment lutter contre la haine? C'est pas évident ça, père Delorme. Hein. C'est revenir sur les préjugés et les appréhensions qui nous occupent tous.
Écoutez, je crois que avec tous ces drames qui se succèdent, d'une certaine manière, on perd un peu de notre innocence et que il faut être réaliste, faut regarder la réalité du monde qui est violente et qui est impitoyable dans beaucoup d'endroits et voilà que cela nous arrive à nous aussi qui étions relativement protégés. Alors aujourd'hui, il ne s'agit pas d'opposer simplement des fleurs et des mots d'amour à ceux qui veulent détruire notre démocratie, qui veulent détruire notre société, notre monde, mais il s'agit de dire que nos valeurs ne doivent pas être mises en péril par ces barbares, parce que le mot en effet peut être employé, par ces gens qui n'ont plus d'humanité et qui détruisent l'humanité. Et nous ne le ferons encore une fois qu'ensemble. Pour moi, c'est ça qui est important, c'est que il faut plus que jamais que nous nous rencontrions les uns et les autres, quelles que soient nos appartenances, nos convictions, que nous nous rencontrions et qu'ensemble nous disions mais nous mettrons un coup d'arrêt. Il va falloir du temps sans doute à cette violence épouvantable.
Rachid Benzine, bonjour.
Bonjour.
Derrière ce blâme, la peur des amalgames, le Conseil français du culte musulman a également immédiatement exprimé sa solidarité aux catholiques de France et appelé les responsables des différents cultes à se rencontrer, échanger et combattre les discours de haine. Les grandes voix de l'islam en France ou de l'islam de France peuvent-elles faire plus, Rachid Benzine?
Je pense que face à un moment que nous traversons aujourd'hui, il s'agit d'abord de mobiliser l'ensemble de la société civile dans laquelle font partie effectivement aussi tous les religieux. Et que les religieux doivent aussi se poser la question notamment de la violence. Je pense que ce qui vient de se passer est d'abord pose la question du mal qui est déjà, comme le disait Paul Ricoeur, un défi pour la pensée et la philosophie, mais c'est aussi un défi pour la théologie. Nous avons besoin à la fois de nous rencontrer ensemble, mais nous avons aussi besoin, je dirais, de revisiter nos textes, de revisiter cette question de la violence et aussi de se poser la question comment nous parlons d'autrui. C'est-à-dire qu'il faut que nous puissions avoir le souci des autres, la manière dont nous, dans les prêches se font, c'est-à-dire la place de l'autre, l'estime de l'autre et ne pas oublier que nous vivons dans une société qui est laïque et une société qui est de plus en plus fragile, qui est mise sous tension avec des déchirements français que nous voyons de plus en plus et notamment qui sont mis en scène par le le politique et ces déchirements français font partie du plan de Daesh. Donc nous devons absolument être vigilants et avoir avant tout le souci de la société tous ensemble.
On va y venir. Marc Crépon, est-ce qu'on a le droit d'avoir peur ce matin ?
Oui, je pense que la peur est légitime. La peur est-il, comment ne pas avoir peur maintenant qu'on sait que dans n'importe quel lieu de l'espace public, nous sommes exposés à l'irruption soudaine de la violence. Ce dont il importe de prendre conscience, c'est de ce que la peur risque de nous faire faire et de ce qu'elle risque de nous faire penser. Et là où nous pouvons agir sur notre propre peur de façon positive, c'est en résistant à ce qu'elle nous fait faire et à ce qu'elle nous fait penser de façon excessive, précipitée, abusive. Dans le fond,
mais alors comment on fait pour pas se laisser tétaniser par la peur? Comment en faire un moteur d'action? Comment ne rien céder si on veut reprendre la une de Libération ce matin?
Eh bien, d'abord en ayant conscience de ce à quoi nous tenons de façon principielle et que nous ne voulons effectivement pas lâcher. Et je pense que nous vivons dans une société qui se distingue par un certain nombre de principes auxquels elle tient, qui sont résumés dans la devise de la République, la liberté, l'égalité, fraternité, qui sont pas de vains mots, parce que c'est exactement ce qui est fragilisé lorsqu'une société comme la nôtre traverse une épreuve comme celle qu'elle traverse depuis 18 mois. Et donc, tenir bon sur ces principes-là, en décidant que la peur ne doit pas nous faire exiger encore et toujours davantage de sécurité, qu'elle ne doit pas nous faire renoncer à nos libertés, qu'elle ne doit pas nous faire renoncer à la fraternité et à tout ce qui l'accompagne, c'est-à-dire les règles de solidarité. Ça, c'est une façon de résister à la peur, parce que je crois que si nous cédions sur ces principes, alors nous nous laisserions enfermer par le piège tendu par le terrorisme.
Mais elle est où la liberté quand on peut se faire tuer sur la promenade des Anglais, sur la terrasse d'un café, dans une église, à n'importe quel coin de rue? Elle est où l'égalité quand certains d'entre nous sont ciblés aujourd'hui par un groupe qui veut semer aussi cette division? Elle est où la fraternité quand on a tellement de mal à se réunir au lendemain d'événements comme ça?
Je vais vous dire exactement. C'est-à-dire, pour ce qui est de la liberté, par exemple, c'est de considérer que les menaces auxquelles nous sommes exposés ne doivent pas nous faire renoncer à un certain nombre de libertés fondamentales, la liberté de manifester, la liberté de se réunir, la liberté de s'exprimer, la liberté de pratiquer la religion dans laquelle on se reconnaît une appartenance. La fraternité, elle est évidemment de refuser toute forme d'amalgame, toute forme de globalisation. Et par exemple, il y a une théorie qui fait énormément de mal, et une théorie qui fait le lit de la violence, qui profite d'ailleurs à la violence, c'est celle du choc des civilisations. Parce que lorsque vous souscrivez à la théorie du choc des civilisations, vous dressez une communauté contre une autre, et c'est à ce moment-là que ces règles de fraternité, de solidarité, que ce dialogue dont vos autres invités parlaient à l'instant, se trouve fragilisé et remis en question.
S'attaquer à une religion, dites-vous l'un et l'autre, Rachid Benzine, Marc Crépon, pour provoquer une guerre de religion, ça ce sont les mots de Manuel Valls hier soir, le Premier ministre. C'est peut-être la stratégie de l'État islamique, mais est-ce aussi un scénario qui selon vous pourrait prendre corps en France, Rachid Benzine?
Moi, je ne pense pas que nous soyons véritablement dans une guerre des religions, c'est-à-dire que nous ne sommes pas dans un monde théologique. Ce que l'on peut faire, c'est dresser les fondamentalismes les uns contre les autres, les identitaires les uns contre les autres, et comme vient de le dire votre invité, c'est-à-dire ne pas céder, c'est très important de ne pas céder sur ces principes, parce que si nous cédons finalement sur ces devises qui font serrer la République, nous sommes quelque part mal barrés, excusez-moi l'expression, et que la question de la fraternité, elle est très importante, parce que c'est cette seule valeur qui va permettre de nuancer, c'est cette seule valeur qui va à la fois, comme le disait le père, mon ami Christian Delorme, à la fois, je dirais, il faut que nous soyons vigilants, mais que nous ne soyons pas non plus paranoïa, et qu'il faut continuer à y croire malgré tout. C'est-à-dire que ce qui fonde finalement l'existence humaine, c'est que malgré le mal que nous voyons, les gens continuent à croire les uns dans les autres, les gens continuent à croire dans la société dans laquelle ils vivent. D'autres sociétés sont beaucoup plus déchirées que nous, et d'autres sociétés y arrivent aussi. Et effectivement, il est clair que nous sommes rentrés dans une nouvelle phase où chacun d'entre nous peut être touché et être la cible de Daesh. Lorsque je rencontre, j'ai été hier très peiné de de découvrir, ce meurtre, ce mal qui se produit aujourd'hui dans la société française, mais j'ai été aussi heureux d'entendre aussi la hiérarchie chrétienne qui, avec laquelle finalement a répondu comme je l'espère, c'est-à-dire à la hauteur des évangiles, à la hauteur du message dont elle est porteuse. Et nous avons besoin aujourd'hui de gens qui soient capables d'apaiser la société française, et notamment par des élans de fraternité, et que surtout que la société civile doit aussi pouvoir se mobiliser.
Rachid Benzine, dans Le Monde cette semaine, vous avez signé une tribune où vous soulignez, racontez, décrivez notamment comment vous voyez poindre ces déchirements français, des déchirements qui ont commencé et qui entrent dans le plan de l'État islamique. Ne lui faisons pas ce cadeau, avez-vous conclu. Père Delorme, comment ont réagi les jeunes avec lesquels vous êtes parti? Alors je ne sais pas si c'était en retraite dans la Creuse ou en tout cas en...
Non, c'est une session d'initiation à la lecture du Coran, vous voyez.
C'est
des chrétiens qui veulent s'ouvrir, et heureusement il y a des gens qui continuent de croire qu'il faut se découvrir, apprendre à s'estimer.
Tout à l'heure, un sujet d'actualité. Quelle réaction ont-ils eu, apprenant la nouvelle?
La sidération, mais vous voyez, on a vécu quelque chose d'assez fort, parce que à la fois, il y a des SMS qui sont arrivés pendant qu'on était en train de travailler, et puis très vite, des messages de musulmans, je pense à un imam en particulier, d'Oulain, dans la banlieue lyonnaise, qui m'a téléphoné, du coup, j'en ai fait profiter tous ceux et toutes celles qui étaient avec moi. Donc, cela nous a favorisé une prise de conscience de la gravité de la situation dans notre pays dans laquelle nous sommes maintenant, mais aussi n'a pas fermé les portes à l'espérance. Et c'est pour ça que c'est important que des imams, que des rabbins, que des prêtres, que des responsables maçonniques, peu importe, s'expriment pour dire que nous refusons la division.
Mais Père Delorme, il s'agit aussi d'une jeunesse aujourd'hui, et justement, c'est pour ça que je vous pose cette question sur ces jeunes qui vous entourent en ce moment dans la Creuse, et de la discussion que vous avez pu avoir avec eux. Si on parle des deux assaillants qui ont hier donné la mort et assassiné le père Hamel, faute de donner un sens à leur vie, on voit que ces jeunes tentent quand même de donner sens à leur mort, et qui sont fascinés aussi par l'État islamique et sa rhétorique de la violence. Père Delorme, Marc répond, qu'est-ce qu'on fait contre ça? Sur quelle autre réalité s'appuyer pour transformer ce discours-là? Marc répond et après le Père Delorme.
Justement, je voudrais dire un mot de la place des religions dans la société qui vient d'être évoquée. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a dans la religion des éléments qui peuvent alimenter leur division et qui nourrissent les extrémismes et les fanatismes. Mais il y a aussi, dans les religions, des ressources morales et spirituelles pour s'opposer, pour résister à la violence et pour s'opposer au mal. Et donc, je crois que effectivement, tout ce qui peut rapprocher les religions par la mobilisation de ces ressources morales et spirituelles est un élément qui permet de s'opposer au mal. On voit bien que ce que ces jeunes entendent lorsqu'ils se radicalisent, lorsqu'ils se fanatisent, c'est la face obscure, la face la plus sombre de ce qui peut être mobilisé dans un héritage religieux pour alimenter la violence. Et donc c'est évidemment l'héritage inverse, celui qui est porté par toutes les grandes valeurs et grands principes qui sont en réalité souvent communes aux différentes religions, qui doivent être rappelés.
La religion, c'est normalement, Père Delorme, d'abord une communauté, une communauté de pensée, de valeurs, d'affection. Là, on voit aussi dans le profil et la démarche des assaillants hier à Saint-Étienne-du-Rouvray, quelque chose d'assez individualiste. Il y a peut-être l'appartenance à un groupe, l'État islamique, mais il y a aussi une réponse à donner à soi-même. Je reviens à la question que je vous posais à l'instant, du coup. Comment, autre réalité s'appuyer pour démonter ces discours?
Vous savez, on s'aperçoit que ceux qui commettent ces horreurs appartiennent à des profils très très variés, très différents, et c'est d'ailleurs une des difficultés de prévoir, de prévenir. Et ces gens, certainement, sont des gens qui demandent à exister et à exister de manière horrible parce qu'ils n'ont pas pu le faire auparavant, mais ce sont aussi des gens qui se sont laissés saisir et qui ont dit oui à des idéologies meurtrières infernales, comme on en a connu d'autres dans l'histoire. Et aujourd'hui, je crois que c'est pas d'abord une question religieuse. Bon, il se trouve que un contexte international, une réalité d'un islam qui est en train d'être profondément déchiré et qui va devoir d'une certaine manière se reconstruire, peut être cette réalité-là peut être saisie par des gens qui sont en mal de vivre, en mal de puissance, de toute puissance. Mais ils auraient pu trouver à d'autres époques d'autres idéologies mortifères. Je pense par exemple aux Khmers rouges. Enfin voilà. Donc, ce qu'il faut voir, c'est pas d'abord la question religieuse. C'est que il y a aujourd'hui une idéologie qui a pris une très grande place, qui est de plus en plus insaisissable parce qu'elle n'est pas que territoriale, mais elle s'étend à travers le cyberespace. Et cette idéologie, elle veut détruire notre monde. Et nous devons tous, qu'on soit musulmans, pas musulmans, chrétiens, pas chrétiens, etc. C'est seulement si nous sommes solidaires que nous arriverons à éloigner comme disait Rachid Benzine dans Le Monde, ce nuage radioactif, vraiment. Et en sachant qu'aujourd'hui, il y a des gens dans notre pays. Et c'est ça le danger. C'est pas seulement une question, en termes religieux, comme Daesh voudrait nous entraîner. Malheureusement, il y a des gens qui pensent qu'il faut chasser une partie de la population. Vous savez, à Lyon, il y a quelques jours, on a eu des tags épouvantables avec des mots qu'on croyait appartenir à un passé révolu. Par exemple, on a vu dehors les bicots sur des murs. On voit qu'il y a des relents, il y a un retour d'une mémoire collective liée en particulier à la guerre d'Algérie qui est en train de remonter. Et c'est là le grand danger pour notre société. On sait aussi qu'il y a des gens qui maintenant s'inscrivent à des clubs de tir. Alors, si c'est pour protéger la famille, ça peut se comprendre, mais parfois aussi, c'est parce qu'ils entrent dans une logique de guerre. Donc, il faut absolument désamorcer ça, qu'on soit religieux ou qu'on soit attaché à d'autres valeurs de la laïcité républicaine.
Ouais, il y a beaucoup d'ignorance, hein, c'est ce que vous nous dites également, Père Delorme, et ça c'est un terreau fertile. Chasser le nuage radioactif, ce sont effectivement vos mots, Rachid Benzine. Vous dites que nous sommes tous devenus aussi des analphabètes, notamment du religieux, qu'on est passé du déni au rejet, qu'il faut travailler aussi sur un nouveau récit national. Comment faire pour combattre idéologiquement Daesh? Comment reconstruire une espèce collective?
C'est très important, je dirais, de comprendre ce qui est en train de se passer et notamment de prendre très au sérieux la dimension théologico-politique de Daesh. C'est-à-dire que les réponses doivent être sur tous les terrains, sur la dimension sociale, politique, économique et culturelle, mais elle doit être aussi théologique parce que Daesh se sert aussi des textes scripturaires de la tradition musulmane et que, comme on le sait, le texte et les textes religieux, comme on vient de le dire, peuvent être à la fois des ressources morales et spirituelles pour s'opposer à cette question du mal, mais elles peuvent aussi être des éléments pour diviser. Et lorsque vous divisez, vous commencez par dire qu'il y a un « nous » et un « eux ». Et ce « eux » devient méprisable, et ensuite on dit que ce « eux » devient une menace physique et une menace symbolique. Donc il y a tout un processus, je dirais quelque part, de déshumanisation. Et que face à Daesh, il faut être capable de proposer une espérance, et que l'abbé Pierre disait une chose qui était très intéressante, il disait que une civilisation se mesure à la qualité des objets de colère qu'elle est capable de proposer à sa jeunesse. Et c'est très important de savoir quel est l'horizon d'espérance, qu'est-ce que nous sommes capables de proposer, je dirais, à nos jeunes, pour qu'ils ne tombent pas sur cette division du « nous » et du « eux », et que la bataille culturelle, la bataille idéologique doit être aussi menée. Ce n'est pas simplement une dimension politique, la dimension, je dirais, culturelle, idéologique, théologique doit aussi être menée pour faire en sorte que les textes religieux ne puissent pas servir de caution aujourd'hui au XXIe siècle au fait de dénigrer l'autre et de venir supprimer la vie de l'autre et surtout aujourd'hui dans des lieux de prière, ce qui est quand même impensable aujourd'hui en France.
Et justement, ce « nous » et ce « eux », c'est très important ce que vous venez d'évoquer, Rachid Benzine. Au lendemain, notamment, de Magnanville, et on conclura peut-être avec vous, Marc Répond, Magnanville, où deux policiers ont été tués, des milliers de musulmans qui se disaient eux-mêmes ordinaires ont défilé contre la barbarie à Mantes-la-Jolie, c'était en juin dernier. On n'a pas vu de responsables politiques sur place, en tout cas pas de responsables nationaux de premier plan. Est-ce qu'il ne faut pas pourtant commencer par là, par envoyer des signaux forts, et pour montrer que ce n'est pas, ou ce ne sera jamais, eux contre nous?
Oui, ça, je crois que c'est extrêmement important et c'est pour ça que tout le jeu politicien qui consiste à essayer de semer la division, à essayer d'accréditer la thèse d'un choc des civilisations, la thèse d'un ennemi intérieur qui s'identifierait à une communauté tout entière, eh bien c'est une thèse qui fait le jeu et qui fait le lit de la violence. Donc oui, tous ces signes forts qui pourraient être donnés de cohésion nationale sont absolument capitaux.
Merci beaucoup Marc Répond. Je rappelle le titre de votre ouvrage, La philosophie face à la violence. Et puis visiblement vous travaillez sur un prochain livre, La violence...
L'épreuve de la haine.
Hein, L'épreuve de la haine, où l'on reviendra peut-être sur les fondements notamment de la violence. Merci à vous Christian Delorme et Rachid Benzine. Le titre est de votre dernier ouvrage où vous rouvrez ce dialogue 20 ans après. On comprend à travers ce livre ô combien c'est important. La République, l'Église et l'Islam, une révolution française, c'est chez Bayard. Christian Delorme, je voulais aussi remercier les techniciens techniciens qui sont à vos côtés à France Bleu Creuse, à Guéret, qui vous ont accueilli ce matin.
Tout à fait.